invité de cette série de mini-conférences d'automne. Le précédent était Martin Hirsch la semaine dernière. Pour ceux qui étaient là, vous connaissez le lien entre Martin Hirsch et Bertrand, mais peut-être d'autres l'ignorent. Ce n'est pas du tout celui que vous pensez, que vous imaginez de penseur des enjeux du monde. Non, le lien entre Martin Hirsch et Bertrand Badré, c'est un professeur de français latin grec, une professeure plutôt, puisque ta maman, Bertrand, Sabine Badré, joli prénom, a été la professeure de français latin grec en 4e-3e pour Martin Hirsch. Voici donc Bertrand Badré qui va partager avec nous sa vision du monde et de la finance.
Merci, merci beaucoup Sabine. Je suis content de voir quelques têtes connues directement ou indirectement. Donc ça me fait extrêmement plaisir d'être là. Je suis ravi que la météo soit un allié objectif en donnant pas trop envie d'aller écouter l'expérience qui se passe. Donc merci aussi à la météo. Alors d'une certaine manière, Sabine m'a donné carte blanche. Alors, elle n'est pas complètement blanche pour moi parce que j'ai sorti un livre il y a 3 semaines. Donc, je vais essayer de ne pas vous asséner le livre en condensé, mais d'essayer de partager avec vous à la fois le message de ce livre et puis d'une certaine manière ce que j'ai commencé à entendre en interagissant autour de ce livre depuis quelques jours et de le remettre un peu en perspective. Sabine a eu la gentillesse de retracer mon parcours depuis le collège de Ville-d'Avray. J'ai aussi ça en commun avec Martin Hirsch. J'ai aussi eu ma maman comme professeur, donc nous avons ça en commun. Et donc on se connaît, Martin et moi, depuis extrêmement longtemps. Et en fait, ce parcours m'a conduit à explorer pendant presque 25 ans tous les recoins ou à peu près tous les recoins de la finance, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Parce que tu l'as dit, j'ai à la fois vu le côté public, j'étais au ministère des Finances au moment où on créait l'euro. J'ai même dit dans mon livre précédent que j'étais un peu le Forrest Gump de la finance. J'étais là où ça se passe, sans chercher vraiment à le savoir. J'étais banquier d'affaires à Londres au moment de la bulle d'Internet. J'étais banquier d'affaires à New York au moment où la bulle explosait et où le World Trade Center s'est effondré. J'ai travaillé dans la cellule diplomatique de Jacques Chirac. Alors certes, sur les questions... mais au moment du diplôme. Et puis, après, de manière non planifiée, je me suis retrouvé à la Banque mondiale, où d'une certaine manière, j'ai été... Il y a eu pas mal de choses qui sont passées. Le premier, c'est que je suis passé de la France aux États-Unis, au milieu d'une crise qui n'était pas achevée, ce qui m'a permis de voir un peu la crise de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis surtout, la Banque mondiale, par construction, elle travaille au contact des pays émergents et en développement. Et c'est souvent l'anecdote que je cite. Une des premières rencontres que j'ai faites arrivant à la Banque mondiale, c'était le ministre des Finances indien. Et je lui dis, monsieur le ministre, j'aimerais parler avec vous des conséquences de la crise financière mondiale. En anglais, la Global Financial Crisis, qui est le nom officiel dans les manuels d'histoire de la crise financière de 2007 à 2012-2013, donc la crise du subprime et la crise de l'euro. Et le ministre m'a dit, je vous interromps tout de suite, vous appelez ça la crise financière mondiale, mais on n'a rien à voir dans votre crise, c'est une crise américaine et européenne. Alors, quand c'est une crise en Asie, vous appelez ça la crise asiatique, quand c'est une crise chez vous, vous appelez ça la crise mondiale. Et ça m'a permis de relativiser assez rapidement un certain nombre de pensées sur les sujets et le côté un peu auto-centré de notre Occident. Donc, la Banque mondiale m'a permis d'avoir aussi un regard vu des pays émergents en développement. Et puis, surtout, elle m'a donné cette chance assez rare de passer de l'autre côté de la table au moment où on commençait à reconstruire après la crise précédente. C'est-à-dire que je me suis retrouvé au titre de la Banque mondiale représentant de cette institution dans les G7, G20 et dans ce qui s'appelle le Financial Stability Board. Ce n'est peut-être pas quelque chose dont vous êtes très familier. Mais le Financial Stability Board a été créé en 2008 par le G20 pour être la structure faîtière de la régulation financière internationale. Donc, se retrouve autour de la table à intervalles très réguliers tous les gouverneurs de banques centrales, les directeurs du Trésor, les patrons des autorités de marché pour dire voilà, quelle réglementation financière pour la suite. Donc, ça m'a permis de voir le système s'effondrer de près entre 2007 et 2013 et de voir ce qu'on a fait et aussi ce qu'on n'a pas fait ensuite. Donc voilà, c'est de là que je viens. Alors, peut-être pour commencer un tout petit peu de perspective historique pour voir pourquoi le pourquoi dans mon dernier livre, celui qui vient de sortir, j'ai pris le choix du titre suivant, Voulons-nous, entre parenthèses, sérieusement changer le monde. Évidemment, le mot important, c'est sérieusement. On a tous entendu parler du fameux monde d'après pendant la crise. On va tous dire, on va changer, ça sera différent, etc. Alors, certains ont dit, le monde d'après, ça sera le monde d'avant pire. D'autres ont dit, le monde d'après, ce sera très différent, ce sera merveilleux. Bref, on a beaucoup discuté et débattu. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on est sérieux ? Et je pose cette question instruite par mon expérience du traitement de la crise précédente, qui était déjà une crise extrêmement profonde. Alors, juste un peu d'histoire. En gros, si on prend une perspective d'un siècle, et je vais être, pardonnez-moi d'avance, je vais être volontairement simpliste et à grands traits, mais c'est aussi pour de provoquer vos questions ensuite. Et là, le sujet, ce sont désignés responsables.
On a de temps en temps des petits problèmes de connexion.
Moi, j'ai un signal maximum.
Donc OK.
Donc, 1919-1920, le sujet du traité de paix, pour ceux qui ont fait de l'histoire, vous vous souvenez, c'est dire qui est responsable de la Première Guerre mondiale et qui doit payer. Keynes, le grand économiste, dit assez vite dans un petit opuscule qui a pas mal de succès, les conséquences économiques de la paix, ce n'est pas la bonne méthode. N'empêche que c'est ce qu'on fait. Et on a un enchaînement épouvantable, on ne peut pas imaginer pire, entre 1919 et 1945. Dépression, guerre mondiale, totalitarisme, etc. En 1945, au moins de ce côté du mur, sous leadership, certains pourraient dire hégémonie américaine, mais en tout cas, sous leadership américain, on remet une forme de mondialisation en marche. C'est la création des institutions de Bretton Woods. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international, c'est la création des Nations unies, c'est le plan Marshall, c'est l'OTAN, enfin toutes ces institutions qui ont été les figures tutélaires des Trente Glorieuses. Et le système fonctionne assez bien pendant 30 ans, jusqu'au début des années 70. Ça fonctionne bien, c'est très organisé. Et convertible en or de l'ensemble du système. Une monnaie de réserve comme le dollar indexée sur l'or, ça ne tient pas. Enfin, il y a des contradictions dans le système. C'était un grand économiste belge qui s'appelle Triffin qui avait dit ça. Les Américains, notamment avec la guerre du Vietnam, commencent à avoir des déficits des paiements. L'internationalisation de l'économie pousse cette internationalisation des paiements. Rappelez-vous, le général de Gaulle dit « Moi, je veux donner mes dollars contre de l'or ». Et la pression sur les stocks d'or américains devient très forte, à tel point que le 15 août 1971, Richard Nixon prend la décision de suspendre la convertibilité en or du dollar. Alors, ce n'est pas seulement une décision technique, elle a aussi un impact que je qualifierais presque d'idéologique. On passe d'un monde organisé autour d'une encre qui est l'or, et à travers l'or, le dollar, et on bascule dans un monde où le marché devient l'indicateur dominant. Donc, c'est plus un monde organisé ou organique, c'est un monde où le marché devient la manière de mesurer les choses. Et aujourd'hui, si je vous demande combien vaut un dollar, vous allez me dire ça vaut X euros, et je vous dis très bien, et combien vaut un euro, ça vaut Y dollars. Et donc, c'est pas un jugement de valeur, mais c'est quelque chose qui s'est fait à ce moment-là et qui s'est propagé petit à petit dans le système. L'année d'avant, de manière intéressante, on célébrait le 50e anniversaire du fondateur du grand économiste Milton Friedman dans le New York Times, General Motors. C'était l'époque où on disait ce qui est bon pour l'Amérique est bon pour General Motors, et ce qui est bon pour General Motors est bon pour l'Amérique. Et donc General Motors se posait la question de savoir s'il fallait élargir son conseil d'administration à des administrateurs représentant l'intérêt public, ce qu'on appelle la société civile aujourd'hui. Et Milton Friedman fait un article retentissant qui n'était pas un petit article, c'est 3 pages dans le New York Times, dont le titre est « L'objet de l'entreprise est d'accroître son profit ». Point. Alors, l'article est un tout petit peu plus nuancé, mais on voit bien que donc, au tournant des années 70, le modèle des Trente Glorieuses s'essouffle et petit à petit arrive, ce qui va mettre une dizaine d'années à émerger, ce qui est à la fois ce qu'on appelle la révolution conservatrice sur le plan politique avec Reagan et Thatcher, et sur le plan économique, ce qu'elle est devenir le modèle néolibéral ou le consensus de Washington au niveau international, qui était très, très largement cette idée que l'objet de l'entreprise, c'est la maximisation du profit, comme que l'État est non pas la solution, mais le problème, comme disait Reagan, et que la solution, c'est le consensus de Washington, c'est ouvrir les frontières, ouvrir les mouvements de capitaux, privatiser, etc. Et il faut dire que tout ça marche assez bien. Enfin, je veux dire, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y avait des excès, donc on passe dans un système où on a une très forte croissance dans les années 80, puis assez largement en 90. Tout ça fonctionne bien jusqu'à 2008-2010 avec la crise financière dont on parlait tout à l'heure, qui effectivement, on a la fin d'un cycle où on est allé probablement un peu loin et singulièrement dans le domaine financier. Alors ça s'est passé de plusieurs manières. C'est d'abord été une crise de l'endettement. Ça, c'est pas nouveau. Les crises financières sont souvent liées à de l'endettement excessif. Mais ça a été, et j'ai beaucoup travaillé, Sabine Cé, avec Michel Consu, qui était directeur général du FMI pendant cette période, donc qui a à peu près vu de mon livre précédent qui s'appelait « Can Finance Save the World ? Est-ce que la finance peut sauver le monde ?» avait dit « Il faut reconnaître que le modèle néolibéral a eu des défauts techniques et des défauts éthiques. » La crise de 2008-2010, elle prend racine dans un certain nombre d'imperfections du système. On a eu une crise qui est à multifacettes, on n'a pas fini de l'étudier. C'est une crise, d'abord, comme le disait le ministre indien, transatlantique. On avait un système de circulation d'argent au-dessus de l'Atlantique qui n'était pas très sain, où les fonds de pension allemands et norvégiens avaient financé le subprime américain, pour faire très court. On avait une crise de l'innovation, au sens où la finance commençait à créer des produits qui n'avaient plus de sens. Enfin, qu'on m'explique comment un CDO au carré avait une quelconque relation avec le bien commun ou l'économie réelle, quel que soit le nom que vous lui donniez. Donc, on avait une finance qui était devenue un peu hors sol. J'aime bien rappeler que le poids de l'industrie financière dans l'économie, en tout cas, j'ai vu les chiffres, je n'ai pas pour la France, mais j'ai vu ça pour la Grande-Bretagne et les États-Unis. Les deux années où l'économie financière le plus pesé dans l'économie, c'est 1929 et 2007. Enfin, complètement accidentel, c'est amusant. Donc, il y a un moment où la finance prend trop de place dans l'économie. Donc, crise de l'innovation, de la place de la finance dans l'économie. C'est 1989, il convoque à Londres les banquiers impliqués dans la crise de la dette latino-américaine et leur dit, OK, les pays ont peut-être trop emprunté, c'est pas bien, mais vous leur avez un peu trop prêté, vous en avez profité, c'est pas bien non plus. À ce moment, il est interrompu par Margaret Thatcher qui lui dit « Don't lecture the bankers, they know ». Donc, il y avait quand même cette philosophie que le marché, c'est mieux que la réglementation. Et c'est un peu ce qui s'est passé en 2007-2008, enfin, c'est des questions pour en revenir, mais on a avait un marché qui était décédé, à qui on laissait un libre cours. L'objet, c'était de faire le maximum de levier, d'augmenter la profitabilité au maximum, y compris dans le secteur bancaire. C'est une époque où Deutsche Bank, pour nommer une banque, mais ce n'est pas les seuls, visait des retours sur equity, enfin des return equity, des retours sur fonds propres de plus de 20%. Dans le secteur financier, tous ceux qui ont fait de la finance savent que pour générer ce genre de retour dans la durée, il faut flirter avec les... Mais on était dans cet état d'esprit. Donc, crise de l'innovation, crise de la réglementation et évidemment, crise de la mondialisation où on avait d'un côté une mondialisation technologique et financière.
On ne vous entend plus. Bertrand, on ne t'entend plus du tout, tu es complètement bloqué.
Sabine, peut-être ouais. Que tout le monde pourrait retirer sa vidéo, peut-être que ça faciliterait le...
D'accord, essayons.
Enfin, sauf Bertrand, bien sûr, mais tous les autres. Là, on ne l'entend plus du tout.
Allô, pardon.
Ah. Voilà.
Ça y est, c'est revenu. On vous a perdu pendant 5 minutes à peu près.
Okay. Bon, bah écoutez, on va...
On a tous plus ou moins débranché notre vidéo.
Je rappelais que le jour de la faillite... Je rappelle que le jour de la faillite, vous me voyez, vous m'entendez?
Oui.
Le jour de la faillite de Lehman Brothers, ceux qui géraient Lehman Brothers en France, en Bretagne, etc., se sont réveillés avec leurs yeux pour pleurer lundi matin parce que dans la nuit du dimanche au lundi, Lehman Brothers Amérique avait tout rapatrié. Et le gouverneur de la Banque d'Angleterre de l'époque avait dit, ben voilà, ça montre que dans la mondialisation, quand ça va bien, les institutions sont globales, quand elles meurent chez elles. Mm. Et donc là aussi, ça montrait bien que cette espèce de dynamique avait ses limites. Donc encore une fois, on ne va pas épiloguer sur la crise de 2008-2010, elle arrive. Là, il y a un miracle qui fait qu'en 2008-2009, les pays, après quelques errements, serrent les coudes. C'est vrai en Europe, entre Nicolas Sarkozy, Gordon Brown et Angela Merkel, qui se réunissent plusieurs fois. Au début, ça ne se passe pas très bien. Puis finalement, les Américains acceptent de coopérer. Et puis les Chinois jouent le jeu en faisant le plus grand plan de relance de l'histoire mondiale au même moment. Donc, on a un alignement de réactions très encourageant. Et rappelez-vous, c'est le moment où Nicolas Sarkozy dit, avant le G20, ça y est, il n'y aura plus de trous dans la raquette, on va régler toutes les questions financières mondiales, et c'est l'occasion ou jamais de remettre le système à plat. Alors évidemment, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Qu'avons-nous fait depuis 2008-2010? C'est là que donc, moi, je change de casquette, c'est la partie où je suis de l'autre côté de la table, la réglementation. Donc on prend toute une série de mesures très orientées sur la sécurité des banques, et notamment, c'est tous ceux d'entre vous qui sont plus familiers du secteur financier, toutes les mesures de renforcement de la solvabilité du secteur bancaire, renforcement de la liquidité du secteur bancaire, toute une série de normes sur l'information des consommateurs, etc. Enfin, on centre beaucoup sur le système bancaire. Et si j'étais un peu direct, je dirais qu'on colmate un certain nombre de brèches. Et il ne faut pas… je ne suis pas ironique quand je dis ça. C'était déjà bien de faire ça. Et le fait est qu'on n'a pas embrayé sur les erreurs des années 30 et qu'on a… on n'est pas mort, pour faire court. On n'est pas parti vers une guerre mondiale et on a préservé le système, ce qui était une bonne chose. Mais on n'a pas pensé à regarder ce qui dans le système n'allait pas. On n'a pas corrigé le système. Alors il y a eu un début de tentative, et c'est là que finissait mon livre précédent. Est-ce que les finances du monde, et le livre était plutôt optimiste, au sens où j'avais participé d'assez près à toute une série de conférences en 2015 qui avaient pour objectif de faire la feuille de route collective pour l'après-crise. Alors, ces conférences à Paris, on a été très sensible à la conférence sur le climat en 2015, en décembre, pardon, COP21, mais il y a eu deux autres conférences cette année-là, et ensemble, elles formaient une assez belle feuille de route. La deuxième, c'était en septembre à New York, aux Nations Unies. On a adopté les objectifs du développement durable. Je ne sais pas si vous voyez, c'est le PINS que j'ai là, certains d'entre vous le connaissent, les 17 objectifs adoptés par les Nations Unies. Et en juillet de la même année, on avait adopté en Éthiopie, à Addis Abeba, des engagements sur le financement du développement. Donc, on s'est mis d'accord, finalement, en 2015, tout ça symbolisé par une poignée de main très médiatique entre Barack Obama et Xi Jinping, accord États-Unis-Amérique sur ces sujets-là. Donc, il y avait plutôt un air d'optimisme. On avait vaincu la crise, on n'était pas mort, et collectivement, on se donnait une feuille de route pour les prochaines années. Alors, le petit bémol que j'avais exprimé à l'époque, que j'avais fait un rapport à ce sujet, était de dire, OK, on se donne des objectifs très, très généreux et très ambitieux, mais il y a deux faiblesses. Mais on va faire avec, parce qu'on ne savait pas faire autrement. Le premier, c'est que ces objectifs étaient sur une base volontaire, et on l'a bien vu dans les accords sur le climat, même si les États-Unis se sont retirés, ça ne change pas grand-chose au sens où chaque pays s'est engagé individuellement à faire des progrès sur une route qu'on estime collectivement à au-dessus de 1,5 degré par rapport aux températures pré-industrielles. Mais il n'y a aucun mécanisme coercitif. Il y avait l'idée que la vertu allait être contagieuse et que la pression des pairs allait faire que tout le monde allait bouger dans la même direction. Donc ça, on y croyait assez fort. Et de toute façon, comme on n'avait pas de plan B, il fallait faire avec. Et pareil pour le développement durable. Donc, il y avait plutôt l'idée que ces objectifs étaient sains, que c'était compliqué de s'y opposer. Et je pense que, tout autant que vous êtes en ligne, il n'y a personne qui va me dire que c'est une idée idiote de vouloir éradiquer la pauvreté, de vouloir favoriser l'accès à l'eau potable à tout le monde, l'accès à la santé. On ne peut être que d'accord avec ce qui a été mis en 2015. Donc, première faiblesse, c'était basé sur la bonne volonté en espérant qu'elle soit contagieuse. Deuxième faiblesse, ça c'est plus ma culture financière qui parle, on ne s'était pas posé la question à l'époque de savoir, au fond, comment on va financer tout ça. Parce qu'évidemment, c'est facile de dire qu'on va éradiquer la pauvreté, donner un accès à l'eau, à une gouvernance, enfin tout, tout bien. Ça a un coût très important qui avait été chiffré par certains modèles alors sur les aspects strictement financiers entre 4 et 6 000 milliards de dollars par an, ça fait beaucoup d'argent. Dans une économie mondiale de l'ordre, alors suivant la même mesure, entre 80 000 et 100 000 milliards de dollars, sachant que, par exemple, pour vous donner un ordre de grandeur, quand vous combinez les interventions de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de la Banque européenne d'investissement, de la BER, de la Banque africaine, de toutes ces grandes institutions publiques, vous arrivez, suivant les ans, autour de 150-200 milliards par an. L'aide au développement, c'est 150 milliards par an, et les engagements climat pris à Paris, c'est 100 milliards par an, et il y a beaucoup de double ou triple comptage dans tout ça. Donc, on a un sujet, on a dit, ben, tout, passer à un changement économique, ça va nous coûter plusieurs milliers de milliards de dollars par an pendant très longtemps. Et en face, on a des flux qui sont en dizaines ou centaines de milliards. Et l'idée, c'est que tout ça allait se faire dans la durée. À l'époque, j'avais travaillé avec Mark Carney, qui était gouverneur de la Banque d'Angleterre et qui est maintenant Monsieur Climat pour les Nations Unies. On avait notamment, avec les Nations Unies, publié un rapport qui s'appelait « Révolution silencieuse dans la finance ». On avait listé 400 et quelques initiatives qui montraient que la finance était en train de changer et devenait plus responsable. Force est de constater 5 ans après que c'est un peu moins silencieux, mais c'est toujours pas très révolutionnaire. Donc voilà où on en était, si vous voulez, en 2015. Alors après, les choses suivent leur cours. 2015-2019, on reste dans une croissance assez satisfaisante, mais on voit bien que le monde se durcit, Trump, le Brexit, une Chine qui devient plus agressive, etc. On se retrouve juste avant le Covid, et en fait, c'est là que mon bouquin était à peu près fini, au début de cette année. Et le message que j'avais, c'était de dire, ben finalement, les faiblesses identifiées en 2015, elles se sont matérialisées. Oui, il s'est passé des choses, donc je ne dis pas qu'il ne s'est rien passé entre 2015 et 2020, mais il ne s'est pas passé assez, en ce sens où, en laissant la bonne volonté et les mécanismes de marché joués, ça, il y a une chose qui est claire, c'est qu'on n'est pas sur la trajectoire à laquelle on s'est collectivement engagé il y a 5 ans. Donc, OK, on n'est pas mort, OK, la croissance va caca, le monde n'est pas parfait, mais il y avait cette espèce de malaise, on disait ça va bien, mais est-ce que le verre est plutôt à moitié plein ou à moitié vide? On n'était pas très fiers au début de l'année, et de manière intéressante, j'ai participé à Davos en janvier de cette année, ça paraît il y a très très longtemps. Et à Davos, on n'a pas parlé, une dernière semaine de janvier cette année, on n'a pas parlé de Covid du tout, pratiquement pas. Je n'ai pas de souvenir d'avoir eu une conversation sur le Covid, alors qu'on parlait beaucoup de changement climatique, d'inégalité, avec l'idée de « ça y est, la grande transformation du capitalisme, c'est pour maintenant ». Je suis reparti un peu chose en me disant « c'est formidable qu'on en parle ». Mais est-ce qu'on est vraiment sérieux? C'est de là que vient le titre du livre. Est-ce qu'on est vraiment sérieux avec tout ça? Est-ce que la somme de tous les engagements pris à Davos, si on les lit littéralement, ben on est sauvé? Et dans la vraie vie, on sait que ça ne se passe pas comme ça. Et donc, c'est là que je veux en venir. Je vais essayer de conclure là-dessus pour qu'on ait plus de temps, conclure, pas en une minute, mais de mettre l'accent là-dessus, pour qu'on ait un peu de temps pour la conversation. Donc, on a pris un certain nombre d'engagements. On voit bien que la trajectoire naturelle n'y est pas. C'est vrai sur le plan environnemental et climatique, c'est vrai sur le plan social, où les inégalités n'ont cessé d'augmenter. Le Covid n'a pas vraiment changé les trajectoires, même si temporairement, il y a eu un répit climatique. On a vu que les inégalités ont plutôt continué à augmenter, et notamment le fait que les taux restent bas très longtemps. Alors, c'est peut-être un sujet pour gérer vos fondations. Mais dans la réalité, le fait qu'il y ait des taux très bas fait que ceux qui ont déjà quelque chose voient ce quelque chose prendre de la valeur, ne serait-ce que parce que le taux d'actualisation baisse et qu'ils peuvent s'endetter plus facilement. Ceux qui n'ont rien sont dans la situation exactement inverse. Donc il se trouve qu'ils sont plus souvent frappés par le Covid selon les pays. Donc on a un sujet d'inégalité qui n'a pas disparu, au contraire, inégalité au sein des pays et de nouveau entre les pays. Des progrès faits depuis 20 ou 30 ans sont remis en cause, comme l'a rappelé la Fondation Gates il y a quelques jours. Et par ailleurs, sur le plan climatique, même s'il y a eu encore ce répit, regardez les feux en Californie, par exemple. s'il fallait se convaincre qu'il y avait un souci. Donc moi, le message que j'essaie de faire passer, c'est que si on veut être sérieux, on ne peut pas se contenter de bonne volonté, on ne peut pas se contenter de se cacher derrière tel ou tel leader emblématique, telle ou telle famille très engagée, etc. Et c'est formidable qu'il y ait des gens très engagés. Ça, vraiment, je ne jette la pierre à personne, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et donc là, il y a un travail difficile, d'autant plus difficile qu'il n'y a pas de maître du monde comme il y avait dans les années 70 ou 45, où les États-Unis, d'une certaine manière, ont imposé leur modèle au reste de la planète. Aujourd'hui, les États-Unis n'ont rien envie d'imposer comme modèle à la planète. Ils veulent imposer leurs produits, leur leadership, mais pas un modèle économique. Les Chinois ont leur propre modèle. Et donc, on navigue un peu à vue. Et on n'a pas aujourd'hui de modèle qui nous permette de porter cette ambition du développement durable. Aujourd'hui, on reste très largement ancré sur le système qui découle de Milton Friedman, la maximisation du profit, qui a été mis en musique par un certain nombre de chefs d'entreprise comme Jack Welch, et qui a été d'ailleurs reconnu en 1997 par la Business Roundtable américaine, qui est, il n'y a pas de MEDEF aux États-Unis, il y a une chambre de commerce, et puis il y a la Business Roundtable, qui serait l'équivalent de la FEP, qui regroupe les 200 plus grandes entreprises, et qui a dit en 1997, le capitalisme américain, c'est du capitalisme actionnarial, la seule valeur, c'est le profit pour l'actionnaire. Ça a été écrit noir sur blanc. Alors, de manière intéressante, ils ont sorti un papier l'année dernière, en août 2019, où ils ont dit, maintenant, ça ne marche plus, il faut qu'on ait un capitalisme des parties prenantes, stakeholder capitalism. Mais là-dessus est arrivé le Covid, ils ont été pas mal chahutés, donc je ne sais pas encore très clair s'ils l'ont adopté. Mais on voit bien qu'on est encore aujourd'hui très largement ancré sur la formule de Friedman. Et cette formule, elle a des conséquences. Ce n'est pas juste une formule, je dirais, rhétorique. Elle se décline en matière comptable, elle se décline en matière d'obligations fiduciaires de ceux qui gèrent l'argent, elle se décline dans les normes prudentielles, elle se décline dans les modes de rémunération, dans le rating, dans le reporting, en gros, dans tout ce qui fait la vie quotidienne des acteurs de l'économie. Elle imprègne toutes nos décisions. Moi, j'étais directeur financier pendant des années, je suis encore au bord d'un certain nombre d'entreprises, et je vois bien que c'est ça qui guide les décisions qu'on doit faire. Et c'est très compliqué de s'en éloigner. Je vois a fortiori ça aux États-Unis, quand le board se réunit, qu'on doit prendre des décisions, il y a toujours un avocat pour vous rappeler dans quel sens on prend la décision. Faire très attention. C'est des normes, et elles s'appliquent à nous. Le postulat que je fais, c'est que tant qu'on ne travaillera pas sur ces normes, c'est-à-dire tant qu'on n'ouvrira pas le capot, qu'on ne prendra pas sa clé de 12 et son tournevis pour faire les réglages, on ne sera pas sérieux, au sens où on restera dans la bonne volonté, c'est-à-dire que c'est fragile, une entreprise pourrait être dans la bonne direction, et puis si le dirigeant ou le conseil d'administration change, elle pourra changer de direction. Et puis par ailleurs, c'est assez enclin à ce que les anglo-saxons appellent le washing, des gens qui font semblant et qui mettent un coup de peinture pour dire « regardez comme je suis vert, regardez comme je suis arc-en-ciel, regardez toutes les couleurs, etc. » Et donc, ce que je crois, c'est qu'il faut que petit à petit la société s'habitue à passer à un autre modèle que le modèle friedmanien et qu'on en décline les conséquences dans toute notre vie économique quotidienne. Alors, la perspective que j'aime, c'est des sujets dont j'ai discuté avec un professeur d'Oxford que j'aime beaucoup, qui s'appelle Colin Meyer, mais encore une fois, c'est ouvert à discussion. Colin Meyer dit l'objet de l'entreprise n'est pas de maximiser le profit, l'objet de l'entreprise devrait être de trouver des solutions profitables aux problèmes de la planète et de ses habitants. C'est-à-dire que vous ne profitez pas des problèmes de la planète, vous trouvez des solutions profitables à ces problèmes. C'est très différent. C'est-à-dire qu'au lieu que le profit soit une fin en soi, Friedman, l'objet, c'est la maximisation du profit, trouver des solutions profitables. Ce n'est pas dire que le profit, c'est mal. Au contraire, c'est d'inscrire le profit dans la durée avec une fonction d'utilité. C'est parce que vous apportez une réponse à des problèmes concrets de notre planète et de ses habitants, c'est-à-dire de nous-mêmes, que vous retrouvez du sens et que vous revalidez le profit dans la durée. Et ça doit se traduire au niveau comptable, au niveau fiduciaire, etc. On pourra rentrer dans le détail si vous voulez. Mais c'est vraiment un travail de fond. Ça doit se traduire aussi dans nos modèles financiers. On voit bien qu'on continue à utiliser les mêmes modèles. Je dis souvent de manière très simpliste, mais au 19e siècle, on était dans un capitalisme où on privilégiait le rendement. Vous aviez une mine, vous creusiez. Quand la mine était épuisée, vous alliez creuser un peu plus loin. Vous aviez une deuxième mine, puis une troisième mine, etc. Au XXe siècle, on a structuré l'industrie financière, c'est le couple risque-rendement, c'est ce qu'on a tous appris dans nos écoles, moi le premier. C'est ce qui structure, encore une fois, l'industrie du private equity, du venture capital, mais aussi les modèles d'évaluation des actifs sont sur ce couple risque-rendement, et au cœur de ça, il y a le taux sans risque plus la prime de risque. On a tous fait ça. Et moi, je dis, c'était le cœur de mon livre précédent, il faut qu'au XXIe siècle, on rajoute un troisième pied à l'équation, on passe du risque-rendement à risque-rendement et impact ou risque-rendement et durabilité. C'est-à-dire que la décision financière, elle s'inscrit dans un monde qui n'est pas extérieur au modèle. Je ne suis pas pour un capitalisme Excel ou un capitalisme hors sol. Je suis administrateur de Getting, la société qui gère le tunnel sous la Manche. On a pendant des années organisé un transfert, un va-et-vient de pièces détachées automobiles avec des usines en Grande-Bretagne et des pièces qui venaient d'Europe, en partant du principe que la Grande-Bretagne serait toujours dans l'Union européenne et que tout ça irait très bien. On n'avait pas mis dans le modèle Excel le Brexit. Pareil pour les entreprises américaines avec la Chine. À partir du moment où la Chine rentrait dans l'OMC, ça simplifiait le modèle Excel. On n'avait pas pensé que ça n'allait pas se passer comme prévu. On voit bien aujourd'hui qu'il y a des difficultés. Et donc, il y a cette tension, y compris les tensions qui peuvent être électorales, etc. Et donc, il y a un travail de très important, mais qui va prendre du temps. Je n'ai pas de baguette magique. Quelquefois, on me pose la question de savoir, et si tu avais une mesure à prendre, ça serait laquelle ? C'est des raisonnements très français. Les gens disent, ça, c'est les Français qui font la révolution, qui coupent les têtes, qui pensent qu'il y a un grand soir et que du jour au lendemain, on passe à autre chose. Non, c'est un travail très long d'acculturation. Et c'est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur le sujet, donc ça commence petit à petit à rentrer dans les esprits. En même temps, et je finirai peut-être par là pour laisser la place aux questions, en même temps, on voit bien qu'il n'y a pas un sens de l'histoire obligatoire. Il n'est pas écrit que l'étape suivante de notre système soit un capitalisme résilient, inclusif et durable. Vous avez peut-être vu mes articles, un livre de Patrick Artus, un économiste de Natixis, qui dit non, mais méfiez-vous, le capitalisme ne sera pas plus ouvert, il va être plus dur, parce que la crise est là et que donc il va y avoir un renforcement de la pression à la rentabilité, à la baisse des coûts, etc. Donc ça ne va pas du tout être quelque chose qui va être plus inclusif, ça va être quelque chose de beaucoup plus dur. Il y avait dans le Monde la semaine dernière une très longue interview d'un économiste intéressant qui s'appelle Robert Boyer, qui doit avoir 80 ans maintenant, de l'école de la régulation, qui dit la même chose. Il dit on est à la croisée des chemins, on ne sait pas quel chemin ça va prendre. Donc on se retrouve finalement aujourd'hui après le Covid dans un monde où on a beaucoup réfléchi au monde d'après, où finalement les crises sociales et environnementales n'ont pas été traitées. On est déjà préoccupé de la prochaine crise financière et finalement on n'a pas commencé à finir le travail qu'on n'a pas fait pendant la crise précédente, et donc qui est de vraiment réfléchir au système dont on a besoin pour aller vers cette économie du développement durable qui est celle qu'on cherche aujourd'hui. Alors, je finirai juste vraiment par deux citations que je reprends dans mon livre. La première, très connue, très utilisée d'ailleurs, pardonnez-moi, de Tolstoï dans Guerre et Paix, qui dit « Tout le monde pense à changer le monde et personne ne pense à se changer soi-même ». Ça, c'est important de se dire ça, parce que si on ne se change pas soi-même, il n'y aura pas, encore une fois, il n'y a pas un maître du monde, il n'y a pas une baguette magique qui va prendre des décisions pour nous. Et donc, si on n'est pas prêt, en tant que consommateur, investisseur, citoyen, etc., à se changer, à mettre la pression, à aller dans une direction, le système ne fera pas pour nous. L'économie de marché, elle va répondre, certes, aux normes, mais elle va aussi d'abord et avant tout répondre au marché. Si le marché, comme les 30 000 stagiaires français l'année dernière, dit on ne veut pas aller dans des entreprises qui se comportent mal, ben l'entreprise s'adaptera. Paul Polman m'avait dit qu'il avait transformé Unilever en partie parce que plus personne voulait venir travailler chez lui. Donc, oui, voilà, j'étais obligé de m'adapter. Donc là, il faut que cette pression du marché fonctionne, et ça passera par des changements à tous les niveaux individuels. La deuxième chose, elle est plutôt inspirée de mon deuxième citation, elle est plutôt inspirée de mon expérience américaine. J'étais allé par curiosité au Mont Rushmore, que je voulais voir depuis très longtemps après avoir vu le film de Hitchcock. Et arrivé au Mont Rushmore, j'ai découvert qu'il y avait 4 présidents, 3 que j'ai identifiés assez bien, Washington, Jefferson et Lincoln. Et le 4e était Roosevelt, mais pas le Roosevelt qu'on connaît en France, pas Franklin Roosevelt, mais son cousin éloigné, Theodore Roosevelt. qui a été président de 1900 à 1908. Le plus jeune président des États-Unis, plus jeune encore que Kennedy, et qui a, en quelques années, transformé profondément les États-Unis après une crise extrêmement profonde, une crise sociale, des émeutes très très régulières, la naissance du Labor Day, du 1er mai, c'était un peu avant cette période, deux présidents assassinés, tensions raciales, poids des grands conglomérats non régulés, les Rockefeller, etc., enfin, pollution, enfin, vraiment des États-Unis au bord de l'explosion. Et Theodore Roosevelt, en fait, fait en quelques années toute une série de réformes. Il enracine le système des parcs naturels nationaux. Il y a eu des parcs avant lui, mais il a vraiment structuré, déployé et systématisé cette approche. Il crée une agence de protection du consommateur. Il participe au démantèlement des grands trusts, etc. Il fait toute une série de réformes à très, très grande vitesse et très critiqué. On lui dit, mais attendez, vous n'avez pas été élu pour faire la révolution. Et il répond, je ne fais pas la révolution, j'empêche la révolution. Et donc, je crois qu'on est à un moment où il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir faire si on ne veut pas que les crises qui sont écrites devant nous nous emportent. Donc, je suis plutôt optimiste. On n'a jamais eu autant d'argent, on n'a jamais eu autant de technologies, on n'a jamais eu autant d'outils collectifs. Comme je dis souvent, on a toutes les pièces du puzzle. Maintenant, il paraît qu'on a fait plein de puzzles pendant le confinement. Donc maintenant, il faut faire le puzzle et mettre tout ça en place. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un peu ça. Si on veut sérieusement changer le monde, on ne peut pas juste se contenter de le dire. Voilà, ce n'était pas hyper construit, mais voilà ce que je voulais partager avec vous.
Merci Bertrand de ces commentaires inspirants. Je vais peut-être laisser la parole à tous nos... à nos membres, si certains veulent poser des questions. Vous pouvez
Oui.
Vous présenter, donner votre nom, le nom de votre fondation, et puis poser votre question. Alors,
j'ai une question, Bénédicte Guenier. D'abord, merci pour votre témoignage et bravo pour votre sens de la pédagogie. J'ai une question concernant la loi PACTE. Est-ce que vous m'entendez mieux? Vous m'entendez? Non?
Oui. On s'entend bien, Bénédicte.
Alors, je pose ma question. Quel regard portez-vous sur la loi PACTE?
Qui est figé de nouveau.
Car il me semble que c'est une loi qui va...
Ah, voilà, j'entends là maintenant.
Bon, alors, je répète ma question.
Pardon.
D'abord, je renouvelle mes remerciements pour votre témoignage et surtout votre sens de la pédagogie, parce qu'on a l'impression d'être très intelligent sur l'histoire économique. Sur deux siècles après vous avoir écouté.
Méfiez-vous.
Une question sur la loi PACTE. Quel regard portez-vous sur la loi PACTE et notamment sa brique entreprise à mission? Car il semblerait, sauf si on est d'une naïveté incroyable, que c'est une avancée tout de même assez importante par rapport à ce que vous nous avez indiqué dans le trio rendement, risque et l'entreprise devant jouer un rôle dans le développement durable de notre planète.
Vous avez deux questions, c'est votre question.
Ah, c'est ma question. En fait, quel regard portez-vous sur la loi PACTE? Voilà. Qui me semble être en ligne avec ce que vous
bloquez. Un regard positif. Je pense que c'est un pas important. D'abord parce qu'il socialise ces questions et il a forcé un débat. Alors, d'abord, sur la raison d'être qu'il a aussi. A suscité beaucoup de controverses en disant mais est-ce que c'est sérieux, regardez ces raisons d'être, c'est fait par des cabinets de com, etc. Mais la réalité, c'est que ça commence à prendre et qu'on est dans un monde où quand on écrit quelque chose, on se met en risque. Il ne faut pas sous-estimer le fait qu'écrire quelque chose, on peut vous tenir redevable en disant mais vous avez écrit. Au contraire. Donc je pense que petit à petit, ça rend c'est des mécaniques qui diffusent et qui sont où c'est un progrès.
J'ai une question qui a été posée par écrit, Bertrand. Êtes-vous en phase avec les thèses de Gaël Giraud sur la dérégulation et la nécessité de réformer, entre guillemets, sérieusement la finance mondiale?
Alors, j'entends beaucoup parler de Gaël Giraud que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré, donc je n'aurais pas la prétention de connaître ses thèses. Dans ce que j'ai lu, il y a beaucoup de choses qui m'ont irrité. Mais j'avoue que je ne me sens pas à l'aise pour avoir un débat avec lui. Ce que je crois, c'est qu'il faut garder un principe de réalisme. C'est très compliqué de réformer la finance mondiale. Ce que j'ai découvert, c'est qu'on est passé en 30 ans d'un monde dominé par les États-Unis où finalement, c'était assez simple de fixer des règles. C'était le monde G5, G6, G7, pour faire très très court. On parlait la même langue, on se retrouvait entre soi au coin du feu et on disait, ben voilà, on va faire comme ça. Et le G7 instruisait ses outils, que sont le Fonds monétaire, la Banque mondiale, de faire comme ça, consensus de Washington. Et ce que j'ai découvert, parce que quand on rentre physiquement dans une salle du G20, c'est ce qui vous frappe, vous vous retrouvez dans une salle où il n'y a pas 20 personnes, contrairement à ce que vous pourriez croire, mais beaucoup plus, une salle du Financial Stability Board. Vous avez en fait pour chaque pays une, deux ou trois représentants, la banque, le trésor et les autorités de marché. Vous avez en plus des gens qui ne sont pas dans le G20, comme les Espagnols, les Néerlandais, Hong Kong, Singapour. Vous avez des gens comme la Banque mondiale, le FMI, l'OCDE. Bref, vous avez 80 personnes. Et vous avez des Argentins, des Coréens, des Saoudiens, etc., qui n'ont pas forcément votre histoire financière. Et donc, c'est très difficile de se mettre d'accord sur des règles. Et parti ou pas, je pense qu'il faut faire calme parce qu'on n'a pas d'autre. Il ne fonctionne pas bien. Il n'est pas très optimal. Mais je n'ai pas d'alternative. Si on revient à un monde G5, G7, ben, c'est-à-dire qu'on laisse la place à la Chine. Et ce n'est pas la bonne solution non plus. Et puis avec les États-Unis, ce n'est pas très simple. Donc l'idée qu'il y a un grand soir de la finance et qu'il faut tout revoir, oui, on est tous. Mais on est très français pour ça. On a très envie de dire bon, OK, je vais redessiner un système idéal. Et chaque fois que j'ai dit ça, les gens étouffent de rire quand je leur parle dans ces trucs-là. Mais c'est bien, les Français, vous avez plein d'ambition. Très, très bien. Et en même temps, je pense qu'il faut garder ce sens de la révolution. C'est vrai que je suis devenu beaucoup plus radical par rapport à mon dernier livre. L'idée qu'on n'avance pas à pas, qu'on se met la pression les uns sur les autres, on voit que ça ne suffit pas. Donc, je pense qu'il faut aller un cran plus loin, mais on ne peut pas aller jusqu'à couper les têtes, etc., ce qui est parfois ce que j'entends dire indirectement de Gaël Giraud. Mais je suis prudent parce qu'encore une fois, je ne l'ai jamais vu en… Donc, ce serait maladroit de ma part d'aller plus loin.
Monsieur Badré, vous m'entendez ?
Oui.
Stéphane Couchou, avocat, en complément des questions précédentes, sous un angle franco-français, désolé, par rapport à la loi Pacte, est-ce que vous faites un lien naturel entre justement les nouvelles obligations qui pèsent sur les entreprises françaises de prendre en considération l'impact social et environnemental de leurs activités et le mécénat de ces entreprises qui souvent sont complétées, justement, viennent compléter ces actions. Est-ce que pour vous, c'est un sujet naturel ou ça doit rester étranger, un sujet totalement étranger à cette question de responsabilité ?
Alors là aussi, j'ai ma propre réflexion que je vais partager. Je suis prudent parce que j'habite encore aux États-Unis où d'ailleurs Sabine est gentille, c'était notre dernier déjeuner avant le Covid. Donc même si je suis à Paris ce mois-ci, bien sûr je sais ce qui se passe en France, que je suis, etc., mais pas au jour le jour, donc je suis prudent. Ce que je crois en revanche, pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, et le mécénat est un des aspects, je crois qu'une des valeurs importantes au XXIe siècle, en tout cas je crois et je l'espère, peut-être que c'est, comme on dit aux États-Unis, du wishful thinking, c'est l'intégrité. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on va quand même faire de plus en plus attention à ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous êtes. Que les entreprises soient un peu trop Janus ne va pas forcément être accepté dans la durée. Je pense à un moment où tout se sait, tout se voit, tout se répercute, où les questions de réputation sont importantes. Je pense que l'alignement de tout, y compris dans sa dimension mécénat, est important. Ce que je crois et ce que j'espère aussi, c'est que ce dont on parle va passer de la périphérie au centre. C'est-à-dire que tout ce qui est impact, durable, RSE, etc., ça ne va pas être une direction qui est à la marge du comité exécutif, à la marge de l'entreprise, et que petit à petit, les principes seront intégrés au fonctionnement même de l'entreprise. Et c'est un peu le débat dont je parlais. Est-ce que le capitalisme va sortir de cette crise dans une version le monde d'avant plus dur, ou est-ce qu'il va sortir de cette crise dans une version le monde d'après, même si ça prend 5 ou 10 ans, mais dans une autre direction ?
J'ai trois questions et il y en a une qui te propose de revenir sur les thèses de Gaël Giraud, mais on organisera une prochaine conférence quand tu auras lu tous ces livres. On en a une autre qui pose la question de la manière dont les démocraties peuvent conduire des grands changements au niveau de la planète. en s'apercevant au fond que dans les 50 dernières années, les seuls pays, grands pays qui ont changé de façon volontariste, c'est l'URSS et la Chine, qui ne sont peut-être pas des modèles pour nous. Donc, pourquoi et comment les démocraties peuvent changer? Et puis, une autre question sur le niveau d'endettement post-Covid des États et la manière dont on peut financer des mesures pour l'environnement et la lutte contre la pauvreté.
Alors, les démocraties, moi, c'est pas seulement les démocraties peuvent changer et peuvent faire des choses. Elles sont soumises aussi à des pressions très dures en interne. Les États-Unis sont une démocratie et choisissent, on verra dans un mois s'ils confirment ou pas ce chemin et dans quelles conditions. Ce que je vois depuis Washington, ayant été beaucoup en lien, y compris par mon fonds d'investissement aujourd'hui, avec les pays émergents en développement, c'est qu'il y a chez beaucoup une attente d'avoir une autre offre que de rejoindre la route de la soie ou de signer un deal avec Trump. Je suis très caricatural, encore une fois. Et donc, je pense que l'Europe, elle a cette responsabilité de proposer quelque chose de différent. Alors, je ne sais pas si c'est lié au modèle démocratique, c'est compliqué. Mais je crois qu'il faut, en tout cas, que à tous les niveaux, ça revient à ce que je disais de se changer soi-même, on est tous, et je pense qu'en ligne aujourd'hui, on a une responsabilité en moyenne plus importante que la plupart des citoyens français, compte tenu de ce qu'on est, de ce qu'on représente, comme consommateur, comme investisseur, comme citoyen, comme collaborateur, comme chef d'entreprise, etc. Et donc, il faut porter notre voix. Encore une fois, si on ne fait rien, il ne se passera rien. Le système ne va pas se changer tout seul. En revanche, je suis sûr que dans les entreprises d'où vous venez, dans lesquelles vous travaillez, ou les fondations avec lesquelles vous êtes liés, vous sentez bien quand il y a une pression, c'est probablement souvent plus vrai dans les entreprises de grande consommation. Je cite plusieurs exemples, une entreprise que j'ai aidée. Quand vous êtes dans la restauration, c'est un peu dur aujourd'hui, mais dans la restauration, vous ne pouvez plus ne pas poser la question du gaspillage alimentaire, des emballages, etc., par exemple. Donc, il y a un certain nombre de questions, vous êtes obligé de répondre sur la pression des consommateurs. En même temps, c'est difficile, c'est une discussion que j'ai eue avec mes enfants. Au début de la crise, il y a un certain nombre de grands du textile qui avaient rompu unilatéralement leur contrat avec le Bangladesh en disant « cas de force majeure, j'arrête tout, sans aucune indemnité ». Alors, je dis à mes enfants « qu'est-ce que vous en pensez ?» Ils disent « c'est très très mal ça ». Je dis « bah oui, est-ce que vous allez continuer à acheter vos t-shirts à 1 euro ?» Là, il y a un blanc. Alors, après, ils disent « non, on va arrêter ». Mais c'est… Voilà, donc on est tous dans cette dimension-là. Et donc, il faut qu'on bouge. Encore une fois, si nous ne bougeons pas, le système ne bougera pas pour nous. Alors, sur l'endettement, c'est une question qui agite beaucoup. On a le sentiment que, d'abord parce que c'est des sujets qui sont extrêmement compliqués, sur lesquels on a donné assez peu d'explications. On est passé brusquement d'un monde où il ne fallait pas s'endetter, pas dépenser, rien du tout, à un monde où on dit « c'est pas grave, on y va ». Et je suis très frappé que partout où je vais, il y a cette espèce d'idée d'argent magique ou d'argent gratuit, mais que tout ça n'est pas si grave, ou à l'inverse, qu'un jour la foudre va nous tomber dessus et que ça va très mal finir. Et c'est très compliqué d'avoir un jugement nuancé, en partie parce que, au sens où les références qu'on a tous implicitement, parce qu'on nous les a répétées, c'est le traité de Maastricht, donc il faut que la dette ne soit pas plus de 60% de notre PNB. Il faut que le déficit ne soit pas plus de 3%, et donc on a été biberonné à ça. Et donc, effectivement, ça fait très longtemps qu'on a explosé, puisqu'on on est au double de 60%, les déficits sont à 8 ou 10%. On dit, oh là là, ça va très très mal, et donc ça fait très très peur. Mais en même temps, on se souvient de Nicolas Sarkozy disant, il ne faut pas que la France perde son triple A, sinon c'est notre trésor, c'est la fin du monde. En fait, on a perdu notre triple A, et en fait, on n'a jamais emprunté aussi peu cher que depuis qu'on a perdu notre triple A. Alors qu'on nous expliquait que si on perdait le triple A, ça allait coûter beaucoup plus cher. Donc, on est dans un système où ça devient très, très compliqué, y compris Poil qui va dire, bon, il y a un cas, il faut qu'on… Alors, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les raisonnements de Maastricht ne tiennent plus parce que la différence, c'est qu'à l'époque, les taux étaient à 8 ou 10%. Aujourd'hui, les taux sont à zéro. Donc, même si on est plus endetté, on paye moins. Donc, Et il vaut mieux, plutôt que de mourir et de finir dans une guerre mondiale, il vaut mieux que le patient guérisse. Et donc, les efforts qu'on fait aujourd'hui pour tenir les économies à bout de bras sont légitimes. Est-ce que c'est un mode de vie permanent? Certainement pas. Et donc, c'est bien la question, à quel moment est-ce qu'on commence à redurcir? Alors, dans la durée, c'est là que c'est très difficile. Je ne suis pas économiste, mais c'est des choses dont j'ai beaucoup parlé avec des économistes. La vraie clé dans la Banque centrale. C'est-à-dire, à quel moment est-ce que les gens se disent y a un loup dans le système et finalement, je me prête à moi-même, tout ça ne tient pas la route, j'ai plus confiance dans la banque et je m'en vais. Et ça peut ne jamais arriver, comme ça peut arriver demain. Donc, c'est ça qui est compliqué. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de sujet à court terme. Je pense qu'à court terme, l'idée, c'est de, en gros, de faire ce que font la plupart des pays au monde, de dire, ben voilà, il ne faut pas qu'on meure, donc on met ce qu'il faut. En réalité, ça ne coûte pas si cher que ça. Alors après, arrive la question de savoir si on le dépense bien ou pas, et notamment, est-ce qu'on fait des investissements qui ont du sens, etc. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Je pense que la question, il ne faut pas que ça devienne une habitude dans la durée, parce qu'à ce moment-là, se posera la question de la confiance.
Bon, merci Bertrand. On a dit qu'on finissait en une heure à 18h30. Je sais que tu as une conférence à suivre à 18h30. Donc, je suis désolée pour tous ceux qui avaient encore des questions à vous poser. Merci beaucoup. La semaine prochaine.
Je peux encore prendre une ou deux questions si tu veux.
Ah, bah, écoute, d'accord. C'est moi qui dois partir parce que j'ai une obligation. Donc, je laisse les questions se poser. Okay. Tu décides quand tu vas partir.
Non, mais je peux prendre une dernière question si vous voulez, avec plaisir. Et puis, par ailleurs, si vous voulez repasser les questions par mail via Sabine, avec plaisir, je suis ravi de donner. Pas de souci.
Merci beaucoup. Tessa, je te laisse
gérer. Je reprends la parole. Que ceux qui ont des questions prennent la parole.
Oui, Tessa, petite question.
Oui.
Hervé au téléphone. Enfin, j'aurais voulu poser la question de l'investissement à impact. Si j'ai bien compris, Bertrand nous propose d'essayer d'être acteur et ne pas faire que subir. J'aimerais avoir son opinion sur les investissements à impact dans lesquels, en tant qu'investisseur, on peut peut-être peser sur un certain nombre de choses. Est-ce une illusion marketing qui nous est vendue par les banques ou est-ce qu'ils pensent qu'il y a une réalité derrière tout ça?
Bon, je suis ravi, il faudrait passer la parole à Priscilla, que je suis ravi de retrouver en ligne, mais c'est un sujet dont on a souvent beaucoup parlé. C'est d'ailleurs un sujet de confusion. Quand je suis allé présenter mon fonds d'investissement, que je présente comme un fonds qui vise de l'impact, vraiment, j'ai présenté ça à un fonds de pension néerlandais qui m'a dit, écoutez, alors là, vraiment, l'impact, on en a marre, nous avons eu tellement de soupe, si vous revenez avec le mot impact, on ne vous reçoit plus. Bon, donc j'ai modifié mon discours et j'ai dit qu'on était sustainable. Donc, pour répondre à votre question, il y a d'abord beaucoup de choses.
On ne vous entend plus.
France, qui ne sont pas les normes néerlandaises, qui ne sont pas les normes anglaises, etc. Vous avez maintenant le nouveau contrat impact. Vous m'entendez plus?
Oui, c'est revenu. Merci.
Bon, je disais, il y a plusieurs chapelles dans la cathédrale de l'impact, et ce qui est à la fois très positif et qui contribue à la confusion. Vous avez l'impact au sens philanthropique, que vous connaissez infiniment mieux que moi. Vous avez l'impact au sens, je parle en termes financiers, au sens return of capital, donc je demande juste le retour de mon capital et puis je vous abandonne l'intérêt. Vous avez impact au sens fiscal français où il ne faut pas que ça dépasse un certain revenu. Et vous avez l'impact que moi je propose pour l'instant, j'espère pouvoir élargir ma panoplie, puisque je propose mes produits à des institutionnels pour l'essentiel. Je suis obligé de rester dans les normes risque-rendement, dans les obligations fiduciaires de ces investisseurs. Et donc, je dois leur proposer un retour commercial. Et en plus, c'est-à-dire parce que gratuitement, je leur propose de l'impact. Et alors, l'impact, pour moi, il faut que ça soit très clair, il n'y a pas de définition mondialement acceptée. Il y a des gens qui essaient, il y a toute une série de choses qui se décident, mais il n'y a pas un maître du monde qui a dit l'impact, c'est ça. Et donc, moi, la position que je fais, c'est que de manière transparente, j'ai créé un système de impact rating, comme il y a du credit rating. Donc, on peut comparer l'impact d'un dollar dans un projet A dans l'eau avec l'impact d'un dollar dans un projet B dans la santé. Est-ce que mon système est 100% sûr ? Non. C'est un, je le teste, je le mets en accès libre pour que les gens le critiquent et me challenge. Et ce que je crois, c'est qu'il faut être transparent sur ce qu'on fait, transparent sur l'intention et transparent sur le résultat. Et un point très important de l'impact, c'est une vraie différence avec l'ESG. L'ESG, on est dans l'affichage de l'intention, et c'est déjà un premier pas. L'impact, on est dans l'affichage du résultat. Et ça, c'est un pas qui va beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que quand on regarde dans les recensements internationaux des actifs qui sont gérés en mode ESG, vous arrivez à 50 000 milliards de dollars. Et quand on regarde les définitions extrêmement strictes de l'impact, vous avez 500 milliards. Vous avez un rapport de 1 à 100 entre une définition stricte de l'impact et une définition un peu large de l'ESG. Donc, on est dans cette phase qui est frustrante parce qu'il se passe beaucoup de choses. C'est pas harmonisé, c'est pas un jardin à la française, ça n'en prend pas tout à fait le chemin. Et en même temps, ça va quand même dans la bonne direction. Alors, si vous me permettez finalement peut-être de conclure sur un sujet, puisque vous êtes tous des fondations à racines françaises ou européennes, un des sujets qui me préoccupe, c'est que sur ces questions-là, les Français ont plutôt été en avance. Les Européens ont plutôt été en avance. On a plutôt réfléchi avant à ces questions extra-financières. On a développé un certain nombre de méthodologies, à Bruxelles d'ailleurs encore aujourd'hui. Mais de manière très intéressante, les Américains, je les vois opérer, ont compris qu'il y avait un business. Et ils sont en train de racheter, qui est une agence de notation extra-financière, mais il n'y a pas eu qu'en France. Il y a eu la même chose aux Pays-Bas, il y a eu la même chose en Allemagne. On voit les efforts de BlackRock et Bloomberg, etc. Et moi, ma crainte, c'est que dans 10 ou 15 ans, finalement, ce soit les Américains qui soient juges de ce qui est bien ou mal. Je vais le poser en grands termes. Et qui vont dire, voilà, ça c'est une entreprise qui se comporte bien, et ça c'est une entreprise qui se comporte mal. Alors, un journaliste à qui j'ai ça me dit, c'est pas grave, parce que les Américains vont le faire de manière plus efficace que nous, et donc on obtient le même but, mais par un chemin détourné. Je dis, si, c'est grave, parce qu'il ne faut pas être dans un monde où il ne faut pas être naïf. Je pense que dire à la terre entière c'est bien ou c'est mal, ça a beaucoup de valeur stratégique. Et je pense qu'on est à un moment où on est peut-être en train de laisser filer, et je le regretterai beaucoup. Voilà. Ce sera ma petite bouteille à la mer pour finir.
Très bien. Merci beaucoup, Bertrand Badré, de nous avoir consacré ce temps. Je voulais juste dire à nos invités que nous nous retrouvons lundi prochain à 17h30 avec Édouard Tétrault, notamment sur sa dernière parution « Les États généraux en 2022 » ou « Comment réécrire le contrat social français ». Voilà, donc on vous espère nombreux et merci encore à Bertrand et désolé pour ceux qui n'auront pas eu le temps de poser vos questions.
J'ai pas dit bonjour à tous les gens que j'identifie en ligne, mais j'étais très content de voir plein de gens que j'ai déjà croisés au hasard de mes pérégrinations. Je vois la Fondation Cochrane et quelques autres, c'est super. Bon. Merci beaucoup.
Merci Bertrand.
Merci.
À bientôt.
Bonjour Sophie.
Bonne soirée à tous et à lundi prochain.
Merci.
Merci beaucoup. Au revoir, Tessa.
Au revoir. La semaine prochaine, pour ceux qui sont là.